Le livre des Actes nous raconte dans la vie de l'Église primitive, la première trentaine d'années de son existence, des grands événements. Les grands événements sont enregistrés dans ce livre, le jour de la Pentecôte et la venue du Saint-Esprit, le début de la conversion des païens et les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Et quand on lit ce passage, quand on lit ce chapitre, on se demande, je me demande au moins, pourquoi le livre raconte tout un voyage missionnaire de Paul, d'une durée de plusieurs années, dans deux chapitres, par exemple le chapitre 13 et 14, chapitre 16 et 17. Et puis, dans ce 27e chapitre, il y a tant de détails pour raconter un trajet qui a abouti à un naufrage. Il n'y a pas de grande doctrine dans ce récit, il me semblait. Pourquoi donc ce chapitre est-il dans la Bible? Donc, on va lire une bonne partie de ce chapitre et pour que vous puissiez apprécier ce qui devient. L'apôtre Paul avait été arrêté par les Romains quand les Juifs essayaient de le tuer, donc il était protégé par les Romains, mais il a quand même dû paraître devant les tribunaux et il a fait appel à César. Et donc maintenant, il est en train d'être amené à Rome. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque macédonien de Thessalonique. Et donc, par la suite, ils ont fait quelques arrêts, et ils se trouvent maintenant en pleine Méditerranée sur une île. Verset 9. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Oh, homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écoute le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme la porte n'était pas bonne pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher de l'atteindre Phénix, porte de Crète, qui regarde le sud-ouest ou le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent près de l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle l'Urakion, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné, sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissons aller à la dérive. Donc, ils étaient très frustrés, ils étaient dans une tempête. Verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançons de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Bon. Vous avez des ennuis, n'est-ce pas? Je voulais vous parler que ce qu'il faut faire quand vous arrivez à avoir les ennuis. La difficulté arrive chez vous, chez tous. Le fait qu'on est sauvé et membre de la famille de Dieu ne veut pas dire qu'il ne lui arrive jamais des ennuis. Donc, dans verset 13 que nous venons de lire, nous disons que un léger vent dessus vient de souffler. C'est toujours rafraîchissant lorsque le léger vent dessous souffle. C'est sympa et agréable, et nous sommes très heureux de le sentir. Mais il existe d'autres vents, dont quelques-uns sont contraires, comme le vent impétueux, de verset 14. Il n'y a aucune façon pour savoir quand on va avoir des troubles, ou d'où viendront les ennuis. Ils peuvent arriver dans le foyer, au boulot, à l'école, à l'église, ou dans notre vie personnelle. Ils peuvent trouver leur origine chez un ennemi ou chez un ami proche. Soit la mort d'une personne bien-aimée, soit une mauvaise santé, soit un déçu à l'école ou au boulot, soit la persécution, soit des rêves qui ne se réalisent pas selon nos espoirs. Vous pouvez être sûr que la difficulté arrivera un jour chez vous. Donc, préparez-vous. Vu que les ennuis arrivent, que devons-nous faire? Devrions-nous être vaincus, ou est-ce que nous les surmonterons par la puissance et la grâce de Dieu pour en faire des tremplins, pour arriver à une meilleure marche chrétienne. Dans ce chapitre, nous voyons ce qui se passe par la suite. L'apôtre Paul était en plein milieu de ce problème. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Donc, la première phrase, « On n'avait pas mangé depuis longtemps » pourrait être traduit après une longue abstinence. Et puis, nous lisons que Paul se tenait au milieu d'eux. Il n'y a pas de doute que Paul avait passé une bonne partie de ce temps pendant la tempête au sein du bateau à genoux devant le Seigneur. Il s'est recueilli seul avec Dieu. Et ça, c'est la première chose que nous devons faire. Quand les ennuis nous arrivent, nous devons avoir des moments seuls avec Dieu, comme Paul l'a fait. C'était la coutume des grands hommes et des femmes de Dieu dans l'histoire biblique. Nous pouvons trouver beaucoup d'exemples. Je pense d'abord à Jacob, quand il a dû faire face à son frère qui voulait le tuer. Jacob, avant d'oser se présenter à Ésaü, il a passé toute la nuit et il a pu même lutter avec un ange de Dieu. Et donc, il ne voulait pas laisser l'ange partir, sauf si l'ange le bénissait. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a été renommé Israël, qui veut dire qu'il a lutté avec Dieu et avec les hommes, et être vainqueur. Donc, la première chose que nous devons faire, nous devons nous recueillir seuls avec Dieu. Et nous pouvons lire à partir du verset 22, la deuxième chose que nous devons faire. Paul dit, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. » Il parle à tous ces gens qui sont sur le bateau. « Car aucun de vous ne périra, et il n'aura de perte que celle du navire. » Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et à qui je sers, m'est apparu cette nuit. La deuxième façon d'agir face à la difficulté est de compter sur la présence de Dieu. Amen. Compter sur la présence de Dieu.
Amen.
Vous vous recueillez avec Dieu seul, ensuite vous comptez sur la présence de Dieu. Combien souvent dans sa parole, le Seigneur essaie de nous dire qu'il sera toujours avec nous. Et combien il a dû importer à Paul d'avoir l'ange de Dieu apparaître pendant la nuit pour le fortifier. Lorsque la difficulté arrive dans la vie d'un chrétien, il peut se souvenir de ce que le Seigneur est avec lui. Et il peut compter sur sa présence et il sera fortifié et encouragé. Je me souviens souvent du psaume 23. Je le cite souvent le soir avant de m'endormir. Et ce verset, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est bien de savoir que Dieu est avec le chrétien tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je me souviens d'un verset que j'ai appris tôt dans ma vie chrétienne. J'habitais toujours avec mes parents et j'avais le devoir de passer la tondeuse. Et donc j'écrivais pas mal de petits versets sur des petites cartes. Et quand je tondais le gazon, je lisais et je mémorisais ces versets. Et là, les versets que je mémorisais, c'était Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Et Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est bien d'avoir cela dans notre esprit. Comme le quatrième homme dans la fournaise ardente, avec les trois hébreux jeunes. Ainsi, Jésus nous accompagnera quand les vents impétueux soufflent. Le Dieu qui serait avec Jérémie dans la citerne bourbeuse, ou avec Daniel dans la fosse aux lions, ou avec Paul sur la mer agitée à l'extrême. Oui, notre Dieu sera avec nous lorsqu'il nous arrive des ennuis. Et combien nous devons compter sur sa présence à n'importe quel instant. Et reprenons notre texte, verset 24. Paul avait dit qu'un ange est apparu à lui. Et verset 24, il dit, « Et l'ange m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, aux hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Paul a dit, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Paul agissait d'une troisième façon pratique face à la difficulté. Il avait appris non seulement de se recueillir seul avec Dieu et à compter sur sa présence, mais troisièmement, de croire aux promesses de Dieu.
Amen.
De croire aux promesses de Dieu. Dieu est fidèle. Et quand Dieu le dit, donc c'est arrêté. Quand Dieu le dit, c'est certain. Y croire même si les circonstances semblent indiquer que leur accomplissement est impossible. Beaucoup de promesses dans la parole de Dieu ont été données aux croyants au moment de la détresse, de l'affliction ou de la persécution. Il y a un temps qui s'applique aux problèmes de la vie et les vents impétueux. Remarquons ce que Dieu lui-même dit au sujet de ses promesses. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est point un homme pour mentir. On peut trouver d'autres passages. Mais peut-être que vous connaissez l'histoire d'un missionnaire au 19e siècle qui s'appelle Adoniram Judson. Okay? Adoniram Judson. Qui est allé en Birmanie au début du 19e siècle. C'était bien avant la civilisation moderne, comme nous le savons. La ville de Rangoon était l'une des plus sales du monde, livrée à l'idolâtrie, à la violence, à la corruption. Judson a été jeté en prison pour sa foi en Christ. Là où il se languissait dans le plus sale des endroits, sa foi a été sérieusement éprouvée. Il était déjà là. Personne parmi nous. Mais lui, il était vraiment dans la fournaise. Ses persécuteurs se riaient de lui. Il était allé en Birmanie pour annoncer l'évangile aux païens, mais il était pendu par les pouces, comme ça, et fouetté. Et puis, les persécuteurs se moquaient de lui. Et ils ont dit, « Oh, vos intentions de gagner les païens à votre Dieu, qu'en pensez-vous maintenant? » Et sa réponse, rapidement, durera encore pour encourager le cœur des milliers de chrétiens. Il a dit, « L'avenir est aussi radieux que les promesses de Dieu. » Et donc, si nous croyons vraiment, si nous tenons à croire aux promesses de Dieu, il n'y a rien qui puisse ébranler notre foi. Votre foi dans les promesses de Dieu qui sont fondées sur Dieu même, les rochers inébranlables parmi les sables mouvants de la vie. Aucun vent impétueux peut changer même une seule promesse divine. Elles sont aussi certaines et vraies et éternelles que Dieu lui-même. La grande confiance que nous pouvons avoir. Je vais citer simplement quelques versets de Psaume 46. Ils sont préparés particulièrement dans ma vie chrétienne les premières années de ma vie chrétienne. Psaume 46, à partir du verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Peut-être que l'apôtre Paul, quand il était dans un navire, peut-être ce passage est venu à son esprit. Verset 8. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Et combien de fois est-ce que j'ai cité, je me rappelais ces versets et les vagues des sentiments qui se soulevaient, qui écumaient dans mon âme, ont été calmés par la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à Paul que personne ne perdra la vie pendant la tempête et le naufrage. Il a fini comme Dieu avait dit. c'est toujours le cas. Dieu ne peut pas mentir et ne mentira jamais. Son honneur et sa sainteté sont des garanties. Combien c'est dur de croire, de nous confier à ses promesses et nous reposer le cœur sur leur accomplissement certain. Et revenons maintenant à Actes chapitre 27. Dans notre texte, il faut que Paul a conseillé tout le monde de manger après 14 jours de jeûne. Nous allons voir dans verset 35. Ayant ainsi parlé, Paul prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et il se mit à manger. Paul a rendu grâce à Dieu devant tous. Paul, comme d'autres chrétiens, trouvait toujours un sujet de louange et de remerciement, quelles que soient les circonstances. Voici cette quatrième façon d'agir face aux envies. Non seulement vous recueillir avec Dieu seul, non seulement compter sur sa présence, non seulement croire à ses promesses, mais quatrièmement compter les bénédictions de Dieu pendant votre repas. Compter les bénédictions. C'était vrai pour les chrétiens de l'église primitive. Donc, lorsqu'ils ont été battus de verges par les juifs, les apôtres sont rentrés à l'église et ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Les chrétiens fidèles ont refusé de renoncer face aux difficultés, refusé de céder à la mélancolie, refusé d'abandonner leur profession. Par contre, ils se réjouissaient, ils étaient reconnaissants, même pendant leur épreuve. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Angleterre, des bombes sont tombées sur la maison d'une famille chrétienne. La famille a été évacuée avant l'attaque. Ils étaient dans une autre région du pays. La nouvelle est parvenue au père de la famille que leur maison avait été détruite. Vous avez tout perdu. Votre maison et toutes vos possessions ont été bombardées en 10 000 morceaux. Le père l'a écouté, mais il a ensuite répondu, non, je n'ai pas tout perdu. Les bombes n'ont pas touché ma foi. Je crois toujours à la bonté, à la souveraineté de Dieu. J'ai toujours mon épouse chrétienne et ma famille. J'ai toujours mon espérance ferme des cieux. En fait, j'ai perdu très peu. Je peux toujours remercier Dieu pour cela. Voici l'optique. Oui, pendant le vent impétueux de la vie chrétienne, le chrétien bien fondé peut compter ses bénédictions et remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Comme l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toutes mesures, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Quand arrive la difficulté, comme elle arrive à tous, nous devons voir les réalités éternelles et invisibles. Dieu est derrière tout, et Dieu est toujours là, et donc il n'y a que des nuées qui cachent sa présence, et quand même, il est encore là. Si nous revenons là, Actes chapitre 27. Donc, l'apôtre Paul a assuré les gens, par la parole de Dieu, qu'ils ne seront pas perdus. Et verset 36. Et tous reprenons courage. Ils ont mangé aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Et quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Verset 38 nous dit que pendant cette tempête violente, ils ont allégé le navire en jetant la cargaison dans la mer. Nous trouvons donc la cinquième façon pratique d'agir face à la difficulté. On se recueillir seul avec Dieu. Compter sur la présence de Dieu. Et croire aux promesses de Dieu. Et compter les bénédictions de Dieu. Maintenant, cinquième, débarrassez-vous de l'excédent de bagages. Et dans l'épreuve, nous voyons que c'était la façon que Dieu a choisie pour les aider à arriver au bon port. Cela ne serait pas juste de dire que toute difficulté vient comme des mesures rectificatives de Dieu, mais c'est juste de dire que pendant un moment d'épreuve, nous devons sonder nos cœurs comme a dit le roi David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si des vents tempétueux soufflent dans la vie d'un enfant de Dieu, obéissant, ou bien s'il se trouve dans une crise difficile, il voudra certainement sonder son cœur. Il doit déduire, avec l'aide du Saint-Esprit, si cette tempête est venue comme une correction, ou s'il fait partie de l'entraînement et la bénédiction normale dans la vie d'un chrétien. Cela peut se déterminer uniquement par un examen de soi profond. Et ce sont les moments où nous pouvons faire le sondage dans notre âme. Et pour savoir, bon, est-ce que j'ai invité ces ennuis? Est-ce que ces avis et ces ennuis me sont venus parce que j'ai fait quelque tort? Donc, si c'est le cas, il faut le confesser. Et il faut le jeter par-dessus bord. Et sinon, nous pouvons quand même louer le Seigneur et remercier le Seigneur pour le moment et essayer de trouver le moyen d'être une bénédiction à quelqu'un d'autre. Quand souffle le vent perpétueux, c'est le moment de jeter toute la cargaison inutile ou qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Bon, je vais terminer simplement avec une histoire racontée par un pasteur qui connaissait une jeune chrétienne, une jeune mère, qui avait un beau bébé. Un jour, le bébé est devenu gravement malade. Il a dû aller à l'hôpital. Il risquait même de mourir. Et pendant ce temps, la maman a dit à son pasteur, « Pasteur, je n'ai jamais dans la vie sondé mon cœur comme je l'ai fait dans ces derniers jours. La vie de mon bébé ne tient que la cheveux. Je l'aime et je veux qu'il vive. Et quand je prie, Dieu m'a convaincu de plusieurs choses que je dois régler dans ma vie. Ce moment d'affliction est pour moi une occasion de me sonder le cœur. Ma vie est devenue victorieuse et si je voulais jamais que Dieu m'exauce, je veux qu'il m'exauce maintenant. » Et le pasteur a dit ensuite que Dieu a en fait exaucé les prières à cette dame et la vie de son bébé était épargnée. Donc elle a trouvé la raison pour son épreuve. Et d'autres épreuves viennent pour d'autres raisons. Mais il faut quand même que nous fassions des sondages avec Dieu. Et c'est ainsi que le vent impétueux arrive pour nous faire sonder le cœur et faire ce qui est juste. Donc, c'est mon souhait que Dieu nous aide à le faire pour sa gloire. Toutes les épreuves ne viennent pas parce que nous avons fait quelque chose d'injuste. Ça peut être simplement parce que nous suivons la volonté de Dieu. Et Dieu veut montrer aux autres gens notre réaction pour que ces gens puissent avoir quelqu'un à imiter, quelqu'un à suivre. Et c'est pour que les gens puissent parvenir à avoir confiance en notre Dieu en nous suivant. Donc, quelle que soit la raison pour votre difficulté, sachez réagir, sachez tenir ferme, sachez ne pas laisser les ennuis détruire votre vie chrétienne, mais quand même d'être un drapeau, un standard pour que les autres puissent suivre le Seigneur.